Banane, les infos.
L'assureur Helvetia Baloise, fraîchement fusionné, compte supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse entre 2024 et 2028. Sur les trois prochaines années, a indiqué un porte-parole à l'agence AWP. Le patron Fabien Repretsch avait informé de la suppression de doublons dans la foulée de l'annonce de la fusion de Baloise et d'Helvetia. Cela va concerner surtout les fonctions au siège du groupe et des services internes. La fonction publique vaudoise a entamé mardi une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le budget, le projet de budget 2026 et ses mesures d'économie à hauteur de 305 millions. Il s'agit de la 8e depuis début octobre. Les bâtiments scolaires, a annoncé Cora Antonioli, présidente du syndicat SSP Vaud, dont l'UNIL en grève encore demain, sont les plus touchés. Le syndicat SSP Vaud dénombre ce mardi matin 65 établissements annoncés en grève, dont 43 écoles du primaire et du secondaire et 14 gymnases impactés par la grève. Rêve libertarien, économie du Bitcoin et transhumanisme au Honduras, de riches entrepreneurs du secteur de la tech tentent de soustraire une ville privée au contrôle de l'État. Elle s'appellerait Prospera. L'absence de loi leur permet d'y expérimenter des neurotechnologies, des greffes d'organes pour se rapprocher de l'IA ou des traitements de pointe pour allonger la vie. Le youtubeur français Inoxtag était de passage en Suisse romande pour promouvoir le deuxième tome de son manga Instinct. Invité dimanche dans le 19h30, il évoque son lien avec le pays, son goût pour les défis extrêmes et invite les jeunes à se montrer curieux et à oser. En Suisse, des femmes à l'apogée de leur carrière réduisent leur temps de travail ou changent d'orientation durant leur ménopause, ce qui engendre un coût économique, alerte la patronne Aurore Muller-Godard dans la matinale. Elle plaide pour une sensibilisation et des mesures concrètes au sein des entreprises.
18h-19h, Micropolis.
Et bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Fréquence Banane, bienvenue sur votre Micropolis. Il est actuellement 18h03 et 16 secondes. Comment ça va les amis ?
Ça va bien et toi Paul ?
Ça va très bien.
Bah, ça va super dans ce temps brouilleux, j'allais dire, pardon, plein de brouillard.
Brouillard, il est aberrant là.
Restons simples. Comment ça va Léo ?
Bah écoute, moi je suis très content de vous retrouver, hein, ça me fait plaisir, c'est mon petit moment de la semaine où je vous retrouve, je suis très content.
Magnifique, je foreshadow a bit, tu vas nous faire une chronique sur...
Sur mon rapport à la musique, comment je gère moi dans ma vie la production musicale, parce que c'est un domaine qui prend beaucoup de temps, qui occupe une grande place dans ma vie, donc voilà, je vais un peu parler de ça dans la chronique.
Magnifique, on se réjouit. Du coup, toi, ce sera la deuxième chronique de l'émission. La première, ce sera une chronique de notre chère amie Charlène, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, car elle est en engagement pour justement la grève qui a lieu en ce moment. On en a parlé justement dans le Flash Info. Petite pensée à elle, mais elle sera là justement. On a prévu un petit enregistrement de sa chronique qui passera du coup en premier. Valentine, comment ça va ?
Paul, ça va très bien. En parlant du brouillard, j'ai observé un phénomène hyper étrange. En arrivant ici, j'ai vu que de la fumée sortait du sol. Je sais pas pourquoi.
Ouh, mystérieux tout ça.
Mystère. Hein.
Magnifique. Un peu à l'EPFL ?
C'était proche de l'EPFL.
D'accord, c'était vers le Rolex ?
Non, c'était vers des bâtiments, vers le métro.
Ah ok, d'accord.
Top, plein de mystères finalement. Franché, à la technique, comment ça va ce soir ?
Ça va très bien, merci.
Ça boum ?
Ça boum.
Ok, magnifique. Tu nous prépares aussi une petite chronique aussi qui arrivera en quatrième position dans le fil de l'émission. Mm-hmm. Je vous propose de commencer cette émission aussi en musique avec un titre qui a été suggéré par ma personne, décidément. L'artiste s'appelle Boule Noire. Le titre, Aimes-tu la vie comme moi ? Et c'était notre ami Boule Noire, Aimes-tu la vie comme moi ? Alors, je l'ai déjà un petit peu introduit au début de l'émission. Malheureusement, notre chère Charlène, chroniqueuse en herbe, ne peut malheureusement pas être là ce soir, mais elle a quand même pensé à vous et a fait l'enregistrement de sa chronique qu'on va passer. Donc, c'est comme si elle était dans le studio avec nous, mais finalement, pas tellement parce qu'elle est en manif. Donc, c'est une sorte de double présence. Ça va être un test pour nous ce soir. On espère que ça fonctionne. Franché, est-ce que tu peux nous lancer la chronique de Charlène, si possible.
Me revoilà, ou presque. Moi, c'est Charlène. On s'est déjà vu plusieurs fois, et vous m'avez certainement peut-être déjà entendu ou pas d'ailleurs. Mais ce soir-là, je ne suis pas directement là avec mes collègues sur place. Et franchement, j'en suis vraiment attristée. J'aurais trop voulu revenir et tout. Mais il y a une autre chose qui m'attriste vraiment davantage en ce moment, c'est les coupes budgétaires annoncées par le canton de Vaud. Donc selon le média Rashkit, le canton il a annoncé 305 millions de coupes dans les services publics. Et l'enseignement y est donc particulièrement touché. Dans ma posture d'étudiante, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir simplement me rendre à l'université tous les jours et être entourée de mes camarades et de mes professeurs de qualité. Or, du coup, avec ces coupes, certaines et certains d'entre elles et eux pourraient très bien se voir dans une situation de précarité si la taxe universitaire augmente en réponse aux coupes. De même pour l'enseignement. Donc je me mobilise pour ces personnes et pour toutes les personnes du service public. Bref, j'exerce mon droit à la grève et à la manifestation, même si franchement j'aurais trop voulu être avec vous ce soir. Et la semaine passée, j'étais également pas là, oh my god, j'étais à Marseille cette fois-ci avec ma classe d'atelier pratique de recherche qualitative dans mon orientation de master. Donc c'est un long énoncé pour dire plus simplement qu'on a observé des situations diverses et on a fait des entretiens. J'aimerais du coup dans cette chronique vous partager quelques petits moments de Marseille qui m'ont conforté, surpris, étonné ou encore déçu durant cette semaine-là. Si j'étais là, j'aurais certainement demandé à ce moment-là quels sont vos préjugés sur la ville de Marseille afin qu'on puisse en discuter tous ensemble. Mais vu que je ne suis pas en mesure de le faire, j'ai simplement cherché sur internet. Et le premier article sur lequel je suis tombée se nomme « Top 10 des clichés sur Marseille et les Marseillais ». Allez, on va tenter d'en décortiquer certains. Premièrement, donc premier point, toute la population marseillaise parle avec l'accent. Eh bien non, c'est faux. En fait, Marseille, c'est une ville qui est très cosmopolite, qui attire énormément de monde, que ce soit du monde francophone ou même au niveau international. Donc tout le monde n'a pas l'accent. Alors effectivement, j'étais ravie d'en entendre certains et certaines avec l'accent, mais on ne peut pas en faire une généralité. Un deuxième point, c'est que tout le monde y boirait du pastis et jouerait à la pétanque. Alors j'avoue que celle-ci, elle me donne trop envie de dire oui. Mais encore une fois, non, pas tout le monde ne boit du pastis et pas tout le monde ne joue à la pétanque. La hausse des prix des pastis liée à la gentrification, c'est-à-dire le processus qui fait qu'un endroit attire davantage la classe bourgeoise, fait que les pastis deviennent beaucoup moins accessibles en fait. Avant, ils étaient aux alentours de 50 centimes et aujourd'hui, ils sont à 2 euros dans les bars. Et les 1,50€ se font ressentir pour certaines et certains qui, du coup, ne peuvent simplement plus en prendre. Et d'ailleurs, tous les bars n'ont pas l'autorisation d'en vendre, et ce, pour essayer de le garder accessible. Bon, j'avoue que l'article, il était un peu vieux, il va bientôt fêter ses 12 ans, donc il me semble un petit peu dépassé, et aussi, j'avoue qu'en une semaine, je ne suis pas en capacité de répondre avec justesse à tous les préjugés. Donc, on passe à autre chose. Mais j'aimerais quand même dire, avant de revenir sur l'étude sociologique, que je pensais trop que Joule, quand même icône marseillaise de notre génération, allait être beaucoup plus présent à Marseille, avec, je sais pas moi, des tags, des autocollants, ou bien juste des gens en fait qui l'écoutent dans la rue, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Donc un peu déçu sur ce point, pas dans le sens du jugement de valeur, mais un espoir déçu dans le sens que la réalité observée n'a pas répondu à mes attentes. Par contre, le truc méga stylé, c'est que Jul a sorti son nouvel album le vendredi 5 décembre dernier, donc on était sur place lors de sa sortie, directement à Marseille pour cette nouveauté. Le prochain son d'ailleurs que je vais vous mettre et que vous allez pouvoir écouter dans ce Micropolis sera donc issu de ce nouvel album. Mais bon, du coup, on peut en revenir cette fois-ci à nos moutons. Une semaine à Marseille pour un terrain d'études sociologiques, ce n'est pas vraiment tout repos. Marseille en décembre, c'est comme un petit air frais dans un mois grisonnant. Certes, nous avons pu vivre la chaleur du sud, que ce soit par la bienveillance des personnes rencontrées ou par le climat du bord de mer. C'est vraiment un joli combo pour étudier. Et cette chance, je l'ai eue grâce à mes professeurs, qui se battent tous les ans pour pouvoir avoir des fonds de l'Université de Lausanne pour nous faire vivre cette expérience de terrain. Mon absence et mon soutien à la manifestation de ce soir, c'est un peu ma manière de leur dire merci pour la pertinence de cet enseignement de qualité. Puisque oui, au-delà du soleil et des rencontres, cette semaine était rythmée par des terrains qui demandaient beaucoup, beaucoup de dévouement. Pour vous expliquer brièvement, on était répartis par binôme pour traiter un sujet en lien avec les luttes protestataires à Marseille. Alors certains binômes ont décidé de travailler sur des syndicats, d'autres ont décidé plutôt de s'orienter sur la campagne municipale qui est prévue en 2026, et d'autres encore sur des associations diverses. C'est une semaine pour prendre le maximum d'informations possibles pour ensuite pouvoir en faire une analyse concrète et surtout complète. Et oui, rien que ça. En tout cas, tout le monde avait du pain sur la planche. Dans mon cas, avec ma binôme Oran, que je salue d'ailleurs et remercie pour les moments qu'on a passés ensemble, nous avons eu comme ambition de questionner comment les individus en viennent à se mobiliser pour la cause palestinienne à Marseille. C'était un terrain hyper intéressant et hyper enrichissant, mais évidemment très touchant de par le sujet. J'aime bien me dire que nous sommes partis avec des questions, et nous sommes rentrés avec certes déjà encore plus de questions, mais avec une possibilité d'en trouver des réponses cette fois-ci. Il va désormais falloir analyser nos interactions et ce que l'on a vu pour en tirer des conclusions. Tout le travail reste à faire et franchement je m'en réjouis. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble ou pas, mais en tout cas je vous conseille d'aller à Marseille. Et après tout ce blabla, pour conclure sur le fait aussi que Marseille est un gros banger, je vous laisse avec le son « À chacun sa victoire » du dernier album de Jul.
À chacun sa victoire de notre cher ami Jules, ou devrait-on dire Jul dans le game. Mon ami Léo, tu vas nous faire ta petite chronique sur ton rythme de vie avec la musique. Je te donne le mic.
Super. Ouais, alors c'est ça, dans ma chronique, je vais vous parler un peu de mon rythme de vie complètement absurde, j'ai envie de dire. Plus précisément, de mon rapport en fait au monde de la nuit et comment je vis finalement. Ça va être cool, on va pouvoir un peu discuter du monde de la nuit. Ça va être assez drôle. Donc la nuit, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux visions. Déjà, pour beaucoup, la nuit, c'est un temps de repos, c'est une coupure de la journée, là où notre corps, en fait, se régénère et c'est ça ce dont notre corps a besoin, tout naturellement. Pour moi, c'est l'inverse. En fait, la nuit, c'est un espace vraiment vivant, créatif, c'est un moment de clarté. Je dirais même que je suis plus lucide la nuit que la journée. En fait, voilà, moi, je suis vraiment la seule personne à être disponible entre minuit et 5h du matin, parce qu'il faut savoir que je vis plus longtemps la nuit que la journée. Donc je vis vraiment en décalé, là il est actuellement 18h passé, il faut savoir pour moi il est actuellement 7h du matin. Voilà, donc je vais vous exposer un peu moi ce que je pense du monde de la nuit et pourquoi je le fréquente autant. La nuit premièrement ça isole, c'est là où on est finalement le plus concentré, on est seul avec ses pensées, sans interruption, sans notification, sans pression sociale j'ai envie de dire, et parce que justement on est seul. On a personne avec qui échanger et finalement c'est ça l'avantage. Faut vraiment le voir comme un avantage parce qu'on est livré à nous-mêmes, on peut se parler à nous-mêmes dans notre forme la plus authentique. Et c'est dans ce cadre-là que moi je crée mes meilleures musiques, justement. C'est selon moi un des prérequis pour être un producteur de talent, j'ai envie de dire. On crée jamais le jour, on crée vraiment la nuit. Non pas parce que c'est original ou romantique, mais parce que c'est là où tu fais face à tes émotions les plus authentiques, en fait, les plus honnêtes. Et c'est hyper important en tant que producteur de créer sous l'émotion, comme j'expliquais hein, notamment dans notre dernier Micropolis, à retrouver en intégralité sur Spotify. Voilà, la nuit, c'est vraiment là où les idées sortent, les idées viennent sans forcer. La structure d'un morceau vient tout seul. Moi, pour avoir expérimenté ça, ça fait vraiment 10 ans que je fais de la production. Et vraiment, c'est indéniable que la nuit, en fait, tes sons, ils se créent vraiment d'eux-mêmes. Pour les raisons que je viens d'expliquer. J'étudie aussi la nuit, là encore. C'est pas par contrainte, c'est plus par affinité avec le monde de la nuit. La nuit, ça permet de ralentir. Ça permet de revenir sur les choses avec précision. Le cerveau, je trouve, il est pas forcément moins performant à cette heure-là. Il est simplement plus calme, dans un état moins stressé, plus doux, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension plus intime. La nuit, on est confronté à nous-mêmes, sans le bruit de fond du monde. Les pensées, en fait, sont vraiment authentiques. Finalement, j'ai envie de rajouter que la nuit porte conseil. Moi, je pense que j'ai un peu trop pris l'expression au pied de la lettre parce que je réfléchis littéralement la nuit. Mais voilà, selon moi, c'est le meilleur moment de la journée. C'est un peu bizarre dit comme ça. La nuit, c'est un moment de la journée où tu as une sensation claire que ce que tu vas faire durant ce moment, ça va être plus authentique, plus concentré et plus personnel finalement. Alors évidemment, ça n'a pas tous ses avantages, hein, ça induit quand même des interactions sociales très limitées, mais j'ai envie de dire que quand tu produis de la musique, ça va de soi, hein, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être un producteur et avoir une vie sociale établie, ça n'existe pas. Mais voilà, ça sort des normes classiques de la productivité, et je ne sais pas vous, les amis, si vous êtes plus productifs le jour ou la nuit, mais la question, ce n'est pas tant de savoir si c'est normal ou non, la vraie question, c'est de savoir si c'est cohérent avec ce que l'on est. Voilà, moi, en tout cas, je me considère comme un noctambule, se dit noctambule, une personne qui se promène ou se divertit la nuit. Voilà, donc maintenant, moi, les amis, j'aimerais vous connaître un petit peu plus. J'aime bien vous poser des questions comme ça à chaque émission. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites la nuit ? Est-ce que vous êtes productif ? Est-ce que vous kiffez le monde de la nuit ? Déjà, est-ce que vous êtes plus team nuit ou team journée en général ? Est-ce que vous vous associez plus à la journée ou à la nuit ? Paul, par exemple.
Alors, bonne question, dans le sens
qu'est-ce
où...
Qu'est-ce que tu fais la nuit déjà ?
Alors, Léo, on va quand même pas rentrer dans mon intimité comme ça en début d'émission. Non, mais écoute, la nuit, bah, soit je dors finalement, comme
ouais, c'est ça.
Une bonne partie de la population sur cette bonne vieille terre. Sinon, le week-end, en vrai, j'aime bien sortir, aller faire la fête, boire des coups, aller au cinéma. De temps en temps, je fais aussi un peu de la zik le soir.
Ok, ouais, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que vraiment la nuit, ça, les vertus de la nuit, en fait, sur tes productions musicales, tu les ressens vraiment quand tu produis la nuit ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu as déjà expérimenté ça, par exemple ?
Moi, quand je fais de la zik, ouais. C'est plus la journée. En fait, la nuit, quand j'en fais, c'est plus de manière genre spontanée ou genre j'ai une espèce de truc dans la tête et il faut que je le...
Ouais, c'est ça.
Enfin, l'expression, c'est couché sur papier, mais là, en l'occurrence, vu que c'est un logiciel, bah, tu le fais pas sur papier, mais sur un logiciel. Et c'est là où ça peut être des sessions assez en mode... tu vois pas le temps passer et tout, t'es sur ton truc... Donc je vois un peu l'effet genre concentration que tu peux avoir.
C'est ça exactement.
Mais ça m'arrive quand même un petit peu plus rarement. En termes de productivité, je le suis plus en début de journée ou.
D'accord. Donc toi t'es plus matinal.
Voilà. Début de journée, plus matinal. De manière générale. Mais pas que pour la musique, hein, aussi pour le boulot.
Ouais, d'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Et toi Valentine, dis-nous un peu. T'es plus team journée ou team nuit ? Est-ce que tu fréquentes beaucoup le monde de la nuit ou est-ce que dis-nous un peu.
Ah ben, moi j'adore sortir, donc je pense que mon corps il est plus team nuit, mais dans ma tête je sais que je voudrais plus me lever tôt le matin.
Ouais.
Mais typiquement là j'avais dormi une heure la semaine passée pour rendre des travaux, mais j'ai l'impression que je suis plus productive la nuit.
Ouais.
Et tu vois, la nuit pour moi c'est un peu comme si le temps s'arrêtait, car normalement les gens ils dorment, les gens ils travaillent pas la nuit, et je me dis si je profite de ce temps pour travailler, c'est comme si ce temps il n'existait pas en fait.
C'est ça en fait, que ça soit 2h ou 3h du matin. Attends, c'est la même chose, le temps s'évapore la nuit.
Voilà, le temps s'évapore et puis au pire on rattrapera le sommeil.
Ouais, c'est ça, le sommeil n'est pas si important que ça, c'est important quand même le sommeil.
Donc pour moi c'est plus la nuit malgré moi en fait.
Ok, d'accord, bah cool. Francesca, est-ce que tu veux nous dire un peu toi ce que t'en penses ? T'es plus team nuit ou journée ?
Moi pour ma part, je dirais plus team journée, juste parce que la nuit en fait je ressens énormément la fatigue. Donc si ce n'est pas pour sortir ou faire quelque chose qui ne nécessite pas vraiment des fonctions cognitives, je préférerais dormir plus tôt et me lever plus tôt le lendemain. D'accord. Comme ça je me sens bien focus sur les tâches que j'ai à faire.
Ouais, c'est vrai, le monde de la nuit, en fait, ça convient pas à toutes les personnes. Il y a des gens, ils se sentent plus... ils se sentent mieux la journée, mieux la nuit, voilà, chacun est différent, c'est intéressant de discuter de ça. Question un peu plus fun maintenant, Paul, dis-moi un peu, la nuit ça te rend plus lucide, plus confus, ou est-ce que tu te poses pas la question parce que tu dors ?
Alors je tendrais plutôt vers la troisième réponse, qui est je me pose pas trop la question parce que je dors, mais si je dois être réveillé durant la nuit, je dois t'avouer que moi je suis plus team Franché, dans le sens où moi au bout d'un moment je suis juste trop fatigué, j'arrive plus à me concentrer, la batterie est faible finalement, donc
d'accord. Valentine, complète ma phrase. À 3h du matin, je me dis souvent que
que j'aimerais bien manger des ramen. C'est toujours la nuit où j'ai envie de manger des ramen. Ah ouais.
C'est quoi des ramen?
Des bouledak, tu sais, les nouilles chinoises là avec le petit bouillon.
Ah ouais, à 3h du matin. Oh, ah, t'es comme ça toi, d'accord.
Ah, c'est trop mon kiff.
Fin nocturne finalement.
Ouais.
Ah, tu tapes dans le paquet de nouilles chinoises à 3h
si
du matin.
Si je peux, si c'est à proximité, je tape.
Ok, cool. Francesca, dis-moi, est-ce que tu vois plus les noctambules comme des gens mal adaptés, avec des problèmes sociaux ou des génies incompris?
Attends, les noctambules, c'est les ceux qui sont réveillés la nuit?
Ouais,
du coup
c'est ça. Les gens qui travaillent la nuit. C'est typiquement moi, en fait.
Ok, tu peux répéter la question.
Est-ce que tu considères les noctambules comme des gens mal adaptés, avec des problèmes sociaux ou plus des génies incompris?
Bah, ça dépend, mais je dirais...
Faut dire génie incompris, hein, si jamais.
Ouais, ouais, c'est...
Des génies incompris. Tu es un génie incompris, Léo.
Ouais, c'est ça. Je l'ai toujours su. Les gens ne me comprennent pas. Je suis un génie incompris.
On te comprend, Léo, t'inquiète.
C'est ça. Ouais, c'est cool. Merci d'avoir répondu à ces questions, les amis. On a pu un peu plus en connaître sur votre rapport au monde de la nuit. Maintenant, les amis, on va s'écouter une chanson qui définit finalement très bien mon sentiment que j'ai par rapport au monde de la nuit et qui constitue, selon moi, le meilleur son house de tous les temps. Voilà, si je devais retenir un seul son, ce serait celui-ci. On va s'écouter Shakedown at Night. C'est maintenant sur Fréquence Banane.
Eh, merci Léo pour ta super chronique. Eh, il faut quand même un petit peu dormir. On se soucie hein, de ton rythme, hein, mon petit Léo là. Hein. Faut faire attention. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais quand on aime, on compte pas. Moi, j'aime la musique et magnifique. Je compte pas mes heures passées avec la musique.
Magnifique. En parlant de passion pour la musique, on passe tout de suite à notre troisième chronique animée par Valentine.
Et oui, c'est ça.
Je te laisse le micro.
Merci Paul. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire de Gorillaz, ce groupe virtuel qui mélange dessins animés, rock, rap et gros malaise existentiel. Donc d'abord, il y a Damon Albarn. Il a vécu dans un quartier ouvrier avec deux parents artistes. Dans leur maison, ils écoutaient surtout de la musique africaine, indienne, mais il a aussi écouté du ska, du deux-tonne. Bref, il grandit dans un bain musical. À Londres, c'est là où il rencontre Graham Coxon. Graham et Damon, ils se font harceler pendant tout leur lycée. Et donc un peu pour se réfugier, ben ils se réfugient du coup dans la musique. Ils jouent ensemble aux fêtes de lycée, ils se font connaître comme ça. Graham à la guitare et Damon au chant. Ils montent un groupe qui s'appelle Seymour. Et musicalement, ben, on va pas se mentir, c'est chaotique. Mais sur scène, Damon explose tout, littéralement parlant. Il va exploser des enceintes, des micros, un peu pour faire le show. Et il signe chez Food Records en 1990, car ça a un peu plu à cette enseigne, et donc Seymour devient Blur. J'ai tout de suite une question pour vous, la team. Vous êtes plus donc team bonne musique ou team show sur scène avant tout? Paul, dis-nous.
Donc la question, c'est si je vais voir un artiste en concert, est-ce que je préfère qu'il me joue de la bonne musique ou qu'il soit genre bien en live, genre
ouais,
qu'il
voilà.
ait une énergie?
Ouais, une énergie, une dynamique.
Pour moi, c'est assez dur de distinguer les deux, pour être tout à fait franc, mais je dirais qu'en live, t'es quand même là pour vraiment l'énergie. Est-ce que transmet l'artiste?
Ouais.
Genre typiquement, un artiste que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup, c'est Étienne Dao. Bon, c'est un peu à l'ancienne, hein. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Variété un peu française, pop, années 80, 90. Et lui, vraiment, en termes de qualité musicale, il paraît que c'est génial. Genre, moi, j'écoute ses albums et tout. Mais il a un peu la réputation d'être en live très, très nul.
Ah.
Genre, vraiment, genre, on s'emmerde un peu.
S'emmerde.
Ouais, ouais, clairement. Donc, c'est assez marrant, en fait, ouais. d'avoir justement les deux comme ça. C'est le seul exemple qui me vient
et du
à l'esprit.
Coup, plus,
plus présence scénique, énergie.
Ouais. Ouais. Okay. Mm-hmm. Et puis toi, Léo, tu es plus présence
écoute,
scénique ou...
Moi, je suis assez d'accord avec toi, Paul. Je pense que vraiment, le live, c'est fait pour vraiment voir une performance artistique. Mm-hmm. Après, moi, je regarde souvent des... En termes de, voilà, de concert, je vais plutôt voir des DJ sets, en fait. Et donc, voilà, la performance, elle est moins axée sur... Enfin, c'est différent entre une performance d'un musicien... avec un instrument, typiquement une guitare ou voilà un groupe et un DJ set, l'énergie n'est pas la même. Mais je suis assez d'accord avec toi, Paul, pour dire que ouais, le live c'est vraiment un show plus artistique, une performance
ouais.
en live quoi.
Donc ouais, l'artiste il t'agrippe quoi, genre
ouais,
t'es là,
ça, plus
tu sens qu'il a un truc à communiquer. Et je trouve que quand un mec il est là, il fait son show et qu'il il est juste en mode, il fait de la musique et il communique pas, genre c'est ça manque
ouais,
quoi.
C'est ça.
Et puis toi, Francesca, en deux mots.
Moi, je dirais plutôt la qualité de la musique, mais après, c'est vrai que ça dépend du style de musique. Mais je trouve que quand même, quand c'est qualitatif, ça se fait ressentir. Mmh. Et puis du coup, de par l'énergie du public, ça crée l'énergie.
En fait, la qualité, elle va engendrer l'énergie, quoi.
Ouais, tout à fait.
Bah, c'est joliment dit. Et donc, Blur, il provoque beaucoup. Donc pour revenir à Gorillaz, les visuels ils sont plutôt borderline, ils ont aussi des embrouilles avec le public, donc c'est vraiment un peu le show au début, il y a une tension permanente et le label leur conseille de copier les Américains même. Mais eux ils veulent faire du 100% britannique, à contre-courant du grunge, à la Nirvana qui était un peu... la musique au pays de l'époque. Mais après la mort de Kurt Cobain en 94, le grunge s'effondre symboliquement. 20 jours plus tard, Blur sort Park Life. C'est le début de la Britpop. Damon devient une star, mais le groupe va mal. Face à eux, Oasis. Les deux groupes sortent un single le même jour et Blur gagne la bataille des ventes. Mais avec Wonderwall, Oasis explose. Damon vacille. Identité en crise, fatigue, pression médiatique. Pendant ce temps, il y a Jamie Hewlett, le dessinateur de Tank Girl. Et lui, son univers est plutôt hyperpunk. Mais l'adaptation cinématique est édulcorée pour plaire au grand public. Échec. Jamie et Damon traînent avec les mêmes gens, dont Banksy. Car oui, même Banksy était leur ami. On voit même un singe signer Banksy dans un clip de Blur. Oasis lâche un jour. Nous, on est les Beatles et les Stones. Blur, c'est les putains de Monkees, ce qui était un groupe de musique à l'époque. Donc Damon et Jamie retournent l'insulte. Ils jouent avec l'image du singe, puis du gorille, et finissent par créer Gorillaz. Donc Gorillaz, c'est un groupe virtuel avec un vrai univers narratif. Ils inventent quatre personnages. Il y a 2D, le chanteur version animée de Damon, Burdoch, le bassiste déglingué abandonné par ses parents, Russell, batteur hanté par les esprits de ses amis assassinés, et Noodle, enfant japonaise, guitariste, arrivé par colis postal. Chaque personnage a sa bio, ses traumas, ses visuels. L'univers est post-apocalyptique, rebelle, un peu guérilla singe. Au début des années 2000, le ton se fait plus sombre, écho à la guerre, au terrorisme. Ils font même un mash-up avec Madonna. Et un film Gorillaz avec DreamWorks est lancé, puis annulé. Beaucoup parlent d'énormes gâchis. Jamie et Damon s'éloignent, l'esthétique change, la vibe alternative semble se perdre, mais en 2018, Gorillaz revient, nouveau lore, nouveau rebondissement, comme Murdoch en prison, remplacé par Ace de la bande dessinée Super Nana. Donc voilà, petit fun fact. Et plus récemment, les influences de Mumbai et la mort du père de Damon et Graham amènent une réflexion sur la mort. De là émerge un nouveau morceau annoncé. Donc il y a The Happy Dictator, mais il y a aussi The God of Lying et The Manifesto sorti le 11 septembre 2025. Donc on va écouter un des trois à la fin de l'émission. Et maintenant, on écoute Rhinestone, Eyes de The Gorillaz.
C'était Gorillaz, le morceau de Manifesto. On enchaîne tout de suite avec la chronique de notre cher Franchi à la tech. Let's go!
Merci Paul. J'aurais envie de commencer cette chronique par une confession. Mon téléphone est mort noyé. Et il a suffi qu'une bière se renverse dessus et le port de chargement a rendu l'âme. Et moi, au lieu d'aller le faire réparer, j'ai eu la flemme. Le résultat, c'est 3 jours sans portable. 3 jours non prévus et franchement assez révélateur. Parce que j'ai réalisé quelque chose que j'aimerais vous faire réaliser également. Quelque chose d'assez évident, mais aussi assez essentiel. Sans téléphone, les journées semblent vraiment plus longues. Pas longues dans le sens on s'ennuie, mais dans le sens ah oui, il y a le temps en fait. D'ailleurs, petite question pour vous la team. Quand vous attendez quelqu'un ou quelque chose, vous faites quoi en premier ?
Bah, on va rester dans le thème de ta chronique, hein. Ça sort le téléphone et puis ça va sur Insta, finalement.
Ouais.
Hein. Comme on est bien aliéné avec les réseaux sociaux et le téléphone, première chose que je fais, moi.
Non, moi je dirais que je regarde juste dans le vide, comme ça. Je pense à ma vie. Je pense à ma vie
Ah, c'est vrai?
Ouais, non, mais vraiment, moi, j'arrive assez bien à décrocher un peu des écrans. Moi, j'ai déjà passé une fois 2 semaines sans téléphone. Enfin, j'avais juste la flemme de racheter un téléphone. Oh, wow. Vraiment, j'ai passé 2 semaines sans téléphone, comme ça.
Ça m'aura dérangé. C'est un pour Léo. Hein. Il arrive à se décrocher du téléphone. Mmh.
Vraiment. Donc, non, moi, des fois, je regarde dans le vide comme ça et j'attends.
Ok, bah, moi, sans mon téléphone, j'ai dû réapprendre à attendre, du coup. Ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours, les chercheurs l'expliquent assez bien. Notre perception du temps n'a rien à voir avec l'horloge. Elle dépend surtout de ce que notre cerveau enregistre. Et aujourd'hui, notre cerveau est soumis à une multitude de stimuli courts, rapides et permanents. Des notifications, des messages, des vidéos, du scroll à volonté. Et chaque élément effectivement pris séparément est minuscule, mais quand on les met bout à bout, ça crée une impression d'accélération constante. On saute d'une chose à l'autre sans vraiment s'arrêter. Résultat, on vit beaucoup de moments, mais on en mémorise très peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de finir une journée très remplie, mais d'avoir du mal à dire ce que vous avez vraiment fait en y repensant? C'est normal, c'est parce que le cerveau encode mieux le temps quand il y a des ruptures, de la nouveauté et du calme. Or aujourd'hui, tout se ressemble. On a les mêmes gestes, les mêmes écrans, les mêmes rythmes. Et quand les journées se ressemblent, elles se compressent dans notre mémoire. Pour remédier à cela, il n'y a pas 36 manières, juste se rappeler que moins de distractions est égal à plus d'attention est égal à plus de souvenirs, et que plus de souvenirs est égal à une impression de temps qui s'allonge. Autre question pour vous, est-ce que ça vous arrive encore de vous ennuyer, mais le vrai ennui, celui où vous avez juste rien à faire?
Bah, de plus en plus rarement, hein, en vrai, parce que t'as toujours une source de distraction à portée de main, le téléphone, hein, tout bêtement, hein, c'est...
Ouais, c'est vrai. Moi, j'essaie toujours d'éviter l'ennui, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive... Par moment, voilà, à la fin de la journée, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? je vais aller me coucher, mais je peux pas parce que moi, je dors pas la nuit.
Reviens même au même problème.
Ouais, c'est ça. Donc, l'ennui, ça fait partie de notre humanité, hein, finalement. Oui. C'est comme ça.
Moi, je trouve que c'est très important aussi de s'ennuyer. En fait, j'ai même plaisir à m'ennuyer des fois parce que j'ai plus cette influence là des réseaux permanents.
Ah mais c'est très bien. Sachez que l'ennui a mauvaise réputation, mais il joue un rôle clé. C'est un espace où le cerveau respire, trie et fait des liens. Comme par exemple quand on dort. Et en supprimant totalement l'ennui, on supprime aussi ces moments où le temps s'installe. Alors non, le temps ne s'accélère pas, mais c'est plutôt notre manière de vivre qui le compresse. Et ça ne demande pas une révolution. Juste parfois de ne pas sortir le téléphone et accepter l'attente. Laisser un moment de vide. Et moi, pour l'instant, je vais garder mon téléphone cassé, un peu par flemme, d'accord, mais surtout parce que j'ai redécouvert quelque chose de précieux, qui est la sensation d'avoir du temps. Je vous laisse méditer là-dessus en écoutant Yesterday des Beatles.
Ah, Yesterday des Beatles. Ça nous plonge dans un petit état de mélancolie qui est magnifique, merci pour la propale. On va complètement changer de sujet, finalement. J'ai fait un petit jeu, une sorte de petite chronique qui m'est venue là durant l'émission, grâce à Charlène. Coucou à toi si tu nous écoutes en manif, on pense à toi, bravo. Parce qu'elle parlait de pastis. Et je suis tombé sur un article de notre cher Figaro, voilà, petit journal français, pas piqué des hannetons que papa lit le dimanche matin, sur quels sont les 10 alcools les plus consommés au monde. Alors, on va faire un petit jeu, hein, parce que sinon c'est trop simple, hein, je ne vais pas vous lire le top comme ça. Donc, Valentine, ne regarde pas mon écran, sinon c'est de la triche. Voilà, merci beaucoup. Top 10, numéro 10. Alors, vous avez le choix entre tequila et pastis. D'après vous, laquelle des deux boissons est en numéro 10?
Pour moi, ce serait tequila, parce que le pastis, Marseille, c'est quand même la ville la plus étendue d'Europe, donc il y a beaucoup de Marseille.
Ok. Léo?
Alors attends, j'ai pas capté.
C'est top 10, ouais. Faut deviner quel est l'alcool le plus consommé dans le monde. Hein.
Ah, c'est dans le monde, d'accord. Okay.
C'est soit la tequila ou le pastis.
Je dirais le pastis.
Ok. Franché.
Allez.
Je dirais le pastis et tequila, c'est plus haut.
Non, mais en fait, alors peut-être je me suis mal prononcé. C'est-à-dire que là, genre, on doit deviner, genre, le numéro 10 dans le classement mondial. Genre, qui est à la numéro 10 entre le tequila et le pastis? Entre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Si, si.
Ouais, ouais. Mais je dirais le pastis.
Ah,
ouais.
Pardon, excuse-moi.
Oui.
Et bah, vous avez complètement faux, les amis. C'est notre chère tequila mexicaine nationale.
Bah, j'avais raison.
Qui est, oui, effectivement, qui est en numéro 10. Pour la petite anecdote, est-ce que vous saurez me dire de quoi est composée la tequila?
Pas du tout.
C'est un cactus, c'est fait avec de l'agave. Ah, alors que la tequila, elle, c'est une herbe, c'est avec de l'anis, entre autres. Il y a le sucre, il y a plein d'autres choses dans ce magnifique alcool. Mais voilà, tequila en 10e position, fait avec de l'agave. En numéro 9, selon vous, quel est le 9e alcool le plus consommé dans le monde entre le gin et l'absinthe?
Le gin.
Le gin?
Okay. Absinthe.
Ouais, ça m'inspire.
Moi, je dirais l'absinthe aussi, c'est tellement fort.
Absinthe.
Ouais, ouais.
Ok. Alors, désolé de vous décevoir, les amis, mais c'est Léo qui a raison là-dessus.
D'accord.
C'est le gin qui est le plus consommé en 9e position dans le monde. Est-ce que vous saurez me dire de quoi est fait le gin? Alors là, c'est un peu technique. Pour la petite anecdote, parmi mes nombreuses expériences à travers le monde, j'étais barman. À Genève, dans un bar qui s'appelle les Frangins. Jeu de mots très subtil avec gin, frangin, frangin. Comme vous l'avez deviné, c'était un bar à cocktail avec du gin. Donc je connais un petit peu l'alcool, c'était amusant d'apprendre à faire des cocktails avec. Et j'ai appris notamment là-bas que le gin est fait à base d'une baie, la baie de Genévrier. Voilà,
okay.
Pour votre petite culture G. Alors que l'absinthe, là, c'est comme le pastis, c'est un mix très élaboré de différentes herbes. Du Jura, hein, pas très loin de chez nous. À la base, ça venait du Jura suisse. Et la famille qui a inventé la recette a déménagé dans le Jura, mais français. Là où ça a été popularisé et le plus consommé. Voilà, pour la petite anecdote. On passe à la 8e position et là on part sur les Caraïbes, le soleil, le sucre. Oh là 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 là. D'après vous, en 8e position, est-ce qu'on a le rhum ou la cachaça?
Bah la cachaça, je connais pas du tout.
Cachaça?
Ouais.
Tu sais ce que c'est ou tu sais pas ce que c'est?
Non, je sais pas ce que c'est. Du
cachaça,
coup,
c'est un alcool brésilien.
Ok.
Ouais.
Je reste sur ma position.
Ok, tu restes sur ma position.
Moi je dirais le rhum.
Le rhum?
Ouais.
Franché, un avis? Le rhum?
Ouais.
Ok. C'est une bonne réponse, Léo et Franché. On est sur le rhum. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant entre les deux, je les ai mis les deux ensemble parce qu'en fait, les deux, c'est quasiment les mêmes ingrédients. La base, c'est juste le sucre de canne. Alors après, il y a tout un secret bien gardé vis-à-vis de la composition des levures, de l'eau, des températures de conservation et tout. Mais les deux, c'est quasiment le même. C'est un alcool à base de sucre de canne. Voilà, tout bêtement. On arrive à la 7e position, alors là, j'ai juste oublié de faire un choix, c'est juste le cidre, voilà, qui arrive en 7e position. Okay. Et je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de top, ouais, je lis là comme ça, j'ai oublié de faire des choix. Donc malheureusement, ouais, il n'y a pas de suspense pour celui-là, c'est le cidre, alcool de...
Pomme.
Pomme, yes, exactement, alcool de pomme, effectivement. Qui fait partie des alcools qu'on peut consommer avant 18 ans en Suisse, d'ailleurs, hein, pour la petite anecdote, pour nos amis francophones, franco-français. Parce qu'il me semble qu'en France, tu peux pas consommer l'alcool jusqu'à 18 ans, point barre.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, hein.
Ouais.
16 ans, non? Non, c'est pas 16
ans. Non, c'est 18
ans. Ah, c'est 18
ans. Okay. 18 ans. Ouais, alors qu'en Suisse, à partir de 16 ans, tu peux consommer du vin et des alcools un peu plus soft.
D'accord. Okay.
Tout ce qui est considéré comme spiritueux, là, par contre, c'est à partir de 18 ans.
Ok.
Et comme on n'arrête pas une si bonne lignée, il n'y a pas non plus de choix pour la 6e position. Désolé de vous décevoir, mais j'étais quand même surpris de le voir aussi bas. En 6e position, un alcool russe, un alcool rustique, c'est la...
Vodka.
Yes, exactement. La vodka, alcool de pomme de terre qui arrive en 6e position. Moi, je pensais que c'était un petit peu plus haut, un petit peu déçu de notre ami.
Attends, alcool de pomme de terre?
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est okay. Fait à base de pomme de terre.
Ok.
Ouais. C'est un alcool blanc à base de pomme de terre, okay. Effectivement. Alors là, on retourne sur l'aspect un petit peu plus jeu. 5e position, on est dans le top 5. D'après vous, qui arrive en 5e position? Le whisky, ou le cognac ?
Le whisky.
Ouais, le whisky.
Whisky,
ouais.
Franché.
Ouais, aussi.
Attention, plus de suspense. Effectivement, c'est le whisky qui arrive en cinquième position. Fait du blé, maïs, avoine, seigle. Alors que le cognac, c'est fait avec du vin blanc, en fait. C'est tout un processus où on va faire maturer le vin, donc du coup du vin blanc, pour faire de l'alcool fort avec. C'est un alcool d'alcool.
Wow.
Je trouve ça assez intéressant, je ne savais pas du tout. Voilà. En quatrième position, là, on va changer de continent. Avant, on était aux Caraïbes avec la huitième position. Là, on est en Asie, finalement, avec deux alcools que moi, personnellement, enfin, il y en a un des deux que je connais, mais parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas. L'autre, je ne le connaissais pas. En quatrième position, selon vous, le baijiu, alcool de céréales, ou bien le soju, alcool de riz ?
Le soju, pour
ouais,
moi.
Le soju.
Je connais pas du tout à dire le soju.
Ouais, je vais vous alors, désolé de vous décevoir, mais vous avez toutes et tous faux. Ah. On est sur le baijiu, alcool de céréales très, 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 très consommé par nos amis chinois. Alors que le soju, lui, vient plutôt de Corée du Sud.
D'accord.
Voilà. Et moi, j'ai découvert le soju justement là-bas. En fait, il mélange carrément le soju avec la bière. Donc, en fait, tu bois des bières, sauf que en fait, ça a l'effet de 5 bières. Et c'est pas mal. Enfin voilà, avant d'aller en boîte. Bah, c'est un alcool qui a pas vraiment de goût, pour être tout à fait franc. Donc.
C'est pour ça qu'il le mélange avec la bière.
Ouais, exactement. Puis t'as tout un process avec la cuillère où en fait tu fais tomber la cuillère.
Ah oui, j'avais déjà vu ça.
Dans ton verre à bière. Puis en fait t'as les bulles qui remontent. Donc du coup ça fait mélanger le soju et la bière. Enfin c'est tout un cérémonial là-bas. C'est très sérieux. Et bien, les amis, on arrive dans le top 3. Alors là, malheureusement, il n'y a pas non plus de choix. Désolé, ça va être assez straightforward, comme diraient nos amis anglophones. En troisième position, on a tout ce qui regroupe les liqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par liqueur ? C'est tout ce qui regroupe toutes les boissons alcoolisées, aromatisées à base de fruits, de plantes et d'herbes. Donc, du coup, je vous parlais de pastis, d'absinthe. Ça peut être là-dedans, justement. Et là, normalement, si je parle d'alcool, on a un peu tout cité, sauf deux, d'après vous. Là, il y a un top 2.
Le vin.
Qui on n'a pas cité. Ouais, le vin, effectivement. Et l'autre ?
Champagne.
C'est un type de vin.
Okay.
Ça rentre dans le vin.
La bière.
Ouais, exactement. Attention, pas de triche. Hein. Attention, j'ai vu. Hein. Effectivement, le vin et la bière. Et d'après vous, deux petits sondages qui arrivent en première position entre le vin et la bière.
La
roulement
bière.
De tambour.
La bière.
Ouais, la bière.
Et la bière, c'est une très bonne réponse. Ouais. Bravo à tous. Magnifique. Effectivement, le vin qui arrive en deuxième position. La bière en première position. Petit quiz bonus, quel est le pays au monde qui consomme le plus de bière par habitant ?
La Chine ?
Non.
Par habitant, je dirais...
C'est en Europe.
Je dirais la Suisse.
Non.
L'Irlande ?
Non, mais pas loin, c'est dans le top. C'est
la
en
Belgique.
C'est Europe de l'Est, un peu froid. Ex-URSS.
Pologne ?
Non, mais pas loin. Ça commence par un T.
De République tchèque.
Yes, exactement. Ouais, c'est la République tchèque. Nos amis les Tchèques qui sont les plus gros consommateurs de bière au monde.
Okay.
Voilà, j'ai terminé avec ma chronique et on arrive du coup sur la fin de ce magnifique Micropolis. Merci à tous les amis. C'était une très grande émission de grande qualité. La bise à Charlène qui était là dans nos cœurs finalement, pas physiquement mais dans nos cœurs et dans nos oreilles. Merci à toutes et à tous.
Et ben merci à vous aussi.
Merci, c'était cool la team.
A plus.
Merci.
Ciao, ciao.
A plus.
Fréquence banane, les infos.
L'assureur Helvetia Baloise, fraîchement fusionnée, compte supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse entre 2024 et 2028. Sur les trois prochaines années, a indiqué un porte-parole à l'agence AWP. Le patron Fabien Ruprecht avait informé de la suppression de doublons dans la foulée de l'annonce de la fusion de Baloise et d'Helvetia. Cela va concerner surtout les fonctions au siège du groupe et des services internes. La fonction publique vaudoise a entamé mardi une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le budget 2026 et ses mesures d'économie à hauteur de 305 millions. Il s'agit de la huitième depuis début octobre. Les bâtiments scolaires, a annoncé Cora Antonioli, présidente du syndicat SSP Vaud, dont l'UNIL en grève encore demain, sont les plus touchés. Le syndicat dénombre ce mardi matin 65 établissements annoncés en grève, dont 43 écoles du primaire et du secondaire, et 14 gymnases impactés par celles-ci. Rêve libertarien, économie du bitcoin et transhumanisme, au Honduras, de riches entrepreneurs du secteur de la tech tentent de soustraire une ville privée au contrôle de l'État. Elle s'appellerait Prospera. L'absence de loi leur permet d'y expérimenter des neurotechnologies, des greffes d'organes pour se rapprocher de l'IA ou des traitements de pointe pour allonger la vie. Le youtubeur français InoxTag était de passage en Suisse romande pour promouvoir le deuxième tome de son manga Instinct. Invité dimanche dans le 19h30, il évoque son lien avec le pays, son goût pour les défis extrêmes et invite les jeunes à se montrer curieux et à oser. En Suisse, des femmes à l'apogée de leur carrière réduisent leur temps de travail ou changent d'orientation durant leur ménopause, ce qui engendre un coût économique, alerte la patronne Aurore Muller-Godard dans la matinale. Elle plaide pour une sensibilisation et des mesures concrètes au sein des entreprises.
Fréquence banane, la météo.
Demain, soit le mercredi 10 décembre 2025, on attend un mercure assez doux pour un mois de décembre à Lausanne, entre 6 degrés Celsius le matin et jusqu'à 10 à 11 degrés l'après-midi. Le ciel devrait rester partiellement nuageux, avec des éclaircies possibles. Quelques averses légères ne sont pas exclues, mais globalement, on prévoit un temps calme. Niveau vent, un petit souffle frais, donc pensez à vous couvrir.